France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse en direct jusqu'à 11h. Peut-on être célibataire et heureux? C'est notre question ce matin avec le mensuel Cerveau et Psycho. Le célibat, une voie choisie par de plus en plus d'individus et de femmes en particulier. Selon l'INSEE, 11 millions de personnes vivent seules chez elles. Et toujours selon le même organe, 20 millions de personnes ne sont ni mariées, ni paxées, ni en union libre. Vivre seul serait-il devenu l'une des voies du bien-être pour de plus en plus de Françaises et de Français? De plus en plus souvent un choix et non pas une sorte de malédiction qui signerait une forme d'échec personnel. Alors comment accéder à une forme de félicité, de bonheur du célibat alors que les injonctions à être en couple restent fortes? Nous verrons également si la vie en couple est forcément la voie royale de la santé et du bien-être. Pour vous répondre, nos invités et surtout vos questions et vos témoignages. Comment vivez-vous votre célibat? Avec bonheur ou avec difficulté? Avez-vous inventé une nouvelle forme de célibat? Racontez-nous tout au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France où vous pouvez user du bouton réagir pour envoyer vos messages. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Cécilia Como.
Bonjour Ali Rebbi.
Experte habituée de cette émission, psychanalyste, thérapeute, sexologue, clinicienne. Dernier ouvrage paru, J'ai envie, moi non plus, publié chez Albin Michel. Vous avez également publié Le couple parfait n'existe pas. Bonjour Sébastien Boller, bienvenue. Sébastien Boller, êtes-vous avec nous? Vous êtes à distance? On va vous retrouver dans quelques instants. Vous êtes le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, notre partenaire ce matin. Bonjour Lorraine Bastide.
Bonjour Ali.
Créatrice des podcasts La Poudre et Folie Douce. Vous publiez chez Alary Éditions un très bel essai, Enfin seul, que vous auriez pu titrer Célibataire et heureuse. Lorraine Bastide, un jour, vous brossez les dents. Le soleil se couche teintant de rose. Je vous cite les murs de votre salle de bain. Vous êtes pieds nus sur le carrelage. Vous recrachez le dentifrice au fond du lavabo. Et là, vous ressentez une intense bouffée de bien-être. Vous vous exclamez « Putain, qu'est-ce que je suis bien !» Un cri du cœur poussé un dimanche ordinaire, seul chez vous.
Oui, c'est la scène inaugurale de mon livre que vous avez très bien restitué. Effectivement, c'est le point de départ. Je me suis sentie très bien dans ma solitude et j'ai été surprise par cette sensation de bien-être. Je me suis dit, elle a mis beaucoup de temps à arriver et j'ai eu envie d'en faire un livre pour comprendre d'où venait cette sensation.
Pourquoi ressentez-vous cette bouffée de bien-être, cette félicité d'être seule à cet instant précis?
Je pense que c'était simplement l'aboutissement d'une réflexion, d'une sorte de déconstruction que j'avais faite les années précédentes, qui m'a permis un peu d'enlever tout ce qu'il y avait de culturel, tout ce qu'il y avait de l'ordre de l'injonction, dans l'idée que je devais être mal parce que j'étais seule. Et je pense que j'étais arrivée un peu au bout du cheminement, et c'est un peu ce que j'explique dans le livre.
Comment expliquez-vous ce soulagement, Cécilia Como?
Alors, c'est vrai que c'est aussi souvent en comparaison avec des périodes différentes. Oui. Donc, ce n'est pas un moment qu'on prend. Il est souvent rattaché à d'autres moments. Ensuite, je pense qu'effectivement, pour se sentir bien avec soi-même, c'est quand même très dépendant de l'histoire psychique d'un individu, du contexte dans lequel il est. Est-ce qu'il est enseveli sous les galères ou pas? Et aussi très lié à la façon dont on vit l'attachement aux autres. Je pense que toutes ces choses-là donnent une pluralité de vécu célibataire qui est effectivement extrêmement diverse.
Alors, je le disais en introduction, selon l'INSEE, environ 11 millions de personnes vivent seules, dont 6 millions de femmes. L'INSEE parle de solitude résidentielle et il y aurait au sens légal 20 millions de célibataires qui ne sont ni mariés, ni paxés, ni en union libre, selon un rapport de l'INSEE qui date de 2017. Lorraine Bastide, sur ce mot de célibataire qui ne dit jamais exactement ce que vivent les individus.
C'est vrai que ce mot, j'ai essayé de le manipuler un peu dans l'introduction de mon livre et je me rends compte qu'il désigne des réalités qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Au sens statistique, célibataire, ça a longtemps voulu dire voilà, tout simplement pas marié. Donc même un couple qui vivait sous le même toit depuis 20 ans avec des enfants était considéré comme célibataire parce qu'il n'y avait pas eu de mariage. Alors après, on a inventé le concubinage pour recouvrir cette réalité-là. Mais bon, moi j'ai entendu des jeunes filles de 10-11 ans dire « moi je suis célibataire, j'ai pas d'amoureux » ou alors des femmes de 45 ans qui passent leur vie à faire des dates sur Bumble, dire qu'elles sont célibataires alors qu'elles ont une vie amoureuse, sexuelle, romantique, très riche. Donc finalement, je crois que ce mot, il renvoie à une réalité un petit peu ancienne, un peu plus binaire, où il n'y avait pas autant de nuances et de possibilités de relationner avec les autres qu'il y en a aujourd'hui.
Ce mot de célibataire qui désigne une personne adulte qui ne s'est pas mariée, mais également, comme vous l'écrivez, Lorraine Bastide, toute personne qui n'a pas officiellement présenté au monde une personne comme étant sa moitié.
Oui, je pense que c'est vraiment cette injonction-là en fait, qui est en train de se déliter. Je pense qu'en fait, on aurait tort de dire que ces chiffres que vous venez de donner, que je donne aussi dans mon livre, sont le signe d'un repli sur soi ou d'un individualisme ou d'un isolement des individus les uns des autres. Je crois simplement que c'est les façons en fait, de se présenter au monde qui deviennent beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes et qu'on n'est plus obligé, comme autrefois, de venir chercher, surtout en tant que femme, sa respectabilité sociale par le fait d'avoir à son bras un homme qui nous donnait à la fois son nom, son statut, etc. On n'a plus besoin de ça aujourd'hui.
Et c'est vrai que les femmes sont souvent encore présentées en fonction de leur rapport au mariage et à la famille. Des femmes cataloguées comme pas encore mariées, divorcées ou veuves. Bref, une femme seule, c'est aussi dans l'imaginaire collectif une femme sans homme ou une femme sans enfant à élever.
Et ça, c'est la raison du « enfin » de mon titre. En fait, je me suis rendu compte que ce « enfin » il désignait l'aboutissement d'un parcours personnel qui rejoint beaucoup ce que la psychanalyste vient de nous expliquer, c'est-à-dire une réflexion sur mes propres schémas d'attachement, sur ma propre vie, sur mes propres... Mais dans l'histoire des femmes, on arrive aussi à un « enfin » parce que ça ne fait que quelques secondes à l'échelle de l'humanité que les femmes ont cette possibilité réelle de vivre chez elles. Elles ont le droit de divorcer, elles ont le droit d'avoir un compte en banque, de gagner de l'argent, de travailler, de vivre pour elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment la vraie nouveauté, je crois, dans la société actuelle. Il y a plusieurs générations de pionnières qui sont en train d'inventer pour les femmes un mode de vie complètement renouvelé.
Et un homme pour débuter cette émission. Bonjour Pierre, vous appelez d'Alsace. Bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, bientôt célibataire ?
Déjà célibataire.
Déjà célibataire.
Et en fait, je subis la solitude et j'aurais bien aimé continuer les 33 ans de vie commune que j'ai eus. Et je rencontre beaucoup de gens qui me disent finalement qu'ils ont réussi à dompter la solitude et que maintenant, ils vivent très bien tout seuls. Mais ce qui m'intrigue, c'est que finalement, ils cherchent quand même tous encore l'âme sœur. Donc je me dis, est-ce que c'est pas juste une période de transit? Et pour se rassurer, ils disent... que tout va bien, mais que quand même, c'est pas si facile que ça.
Pierre, vous êtes célibataire depuis combien de temps ?
Depuis le mois de juillet, là, donc
c'est tout frais. C'est tout frais, ouais. Et cette idée du célibat, ça vous... Quel sentiment ça suscite chez vous ? Ça vous inquiète ? Vous vous dites, tiens, voilà un moment de liberté que je vais mettre à profit pour revenir vers moi. Qu'est-ce que vous ressentez exactement, Pierre ?
Je suis dans un moment de recherche, j'essaye de comprendre ce qui m'est arrivé, j'ai pas encore soigné mes blessures, et en tout cas, je me dis, de toute façon, j'ai pas envie de finir ma vie seule, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, et donc, mais c'est aussi une période pendant laquelle c'est une introspection, j'essaye de comprendre pourquoi j'ai ce besoin si intense des autres. Et est-ce que je ne peux pas me retrouver seul tout en étant heureux, mais avec toujours cette envie d'avoir, de rencontrer quelqu'un, quoi. C'est assez complexe, comme je trouve, questionnement.
Est-ce que le plus dur, c'est peut-être de vivre ce célibat alors que nos sociétés valorisent l'idée que le couple, ça reste la voie royale de l'épanouissement et du bonheur. Vous ressentez ça dans cette période de célibat depuis quelques mois, Pierre ?
Oui, alors il se passe des choses assez extraordinaires. Par exemple, il y a des couples me sachant célibataires j'imagine plutôt le mari ou la, mais qui me voit comme un éventuel concurrent, donc des gens que je vois plus, mais aussi j'ai l'impression que c'est plus la même chose, quoi. On passe dans une autre vie, on passe dans un autre secteur de la société. Et puis pour les couples établis, on est aussi enfin, c'est une impression que j'ai, mais des personnes qui ont une certaine liberté, voire même qui profitent de tout ce que la vie de couple pourrait ne pas laisser faire, quoi.
C'est très riche.
Alors que, bon, c'est plus complexe.
C'est très riche et très intéressant ce que nous dit Pierre Cécilia Como.
Oui, et puis je crois qu'il y a une vraie confusion sur les termes. Vous repreniez tout à l'heure les femmes seules. Le célibat et la solitude, c'est pas du tout la même chose. Un célibataire, c'est, si on veut faire simple, hein, quelqu'un qui n'a pas de lien sentimental. C'est comme ça qu'on l'imagine. Quelqu'un de seul, la solitude, c'est l'absence de lien relationnel. Donc il y a énormément de célibataires qui ne se vivent pas seuls parce qu'ils sont en lien avec beaucoup de gens, et absolument, et d'ailleurs
des liens sexuels.
Oui, et puis ce qui est protecteur chez l'être humain, c'est pas tant le couple, parce qu'on a vu un nombre de couples qui sont loin d'être protecteurs. Ce qui est protecteur, c'est le lien à autrui. Mais c'est vrai, je reprends ce que dit Pierre, que les chiffres impairs sont compliqués pour à gérer. Les célibataires, effectivement, les femmes célibataires vous diront, quand elles ont une trentaine d'années, qu'elles sont au départ invité quand il y a une rupture, et puis ensuite très peu invité, effectivement, comme si elles étaient potentiellement des chasseuses ou des femmes dangereuses. Bon, je pense que ça dépend énormément de l'insécurité des gens qui sont en face d'eux en couple, mais je pense que oui, l'intérêt, c'est de s'interroger sur qu'est-ce qui fait que je n'envisage ma vie qu'avec un partenaire sentimental, alors que je pourrais l'envisager avec des partenaires amicaux, familiaux, relationnels, et que ça pourrait effectivement remplir énormément ma vie.
Lorraine Bastide.
C'est vrai que ça m'a touchée, le témoignage de Pierre. Il y a des choses qu'il dit qui résonnent vraiment avec ce que j'écris dans mon livre. Dans le premier chapitre, je décris cette femme qui n'est plus invitée à partir en vacances avec les couples et les enfants, et qu'effectivement, il y a un sentiment d'être un peu mis au banc de la société qui a vraiment été pensée selon ce modèle du couple ou de la famille nucléaire, où les individus isolés, d'un seul coup, on ne sait plus très bien où les caser. Après, c'est vrai que c'est super frais. Moi, j'ai envie de lui dire prends du temps pour toi, Pierre. Et je pense que c'est aussi important de se saisir de cet espace de solitude. En tout cas, il y a un enjeu très important, je crois, pour les femmes, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont lu mon livre et qui voient ce que je veux dire par là. Aussi, d'avoir le temps de s'investiguer soi, par exemple, d'écrire, de marcher, de réfléchir à ce qui nous anime, peut-être une activité créative, une activité militante, associative, politique, d'aller se relier au monde d'une autre façon. Et c'est un peu le paradoxe que j'explore dans mon livre, c'est que finalement, cette solitude, elle est peut-être, au contraire, l'occasion de mieux se relier aux autres d'une façon plus diverse, plus riche que simplement dans le couple. Et c'est peut-être l'occasion d'explorer ça pour lui.
Pierre, restez avec nous, je vais vous présenter Anaïs. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Avec plaisir, dites-vous Pierre. Bonjour Anaïs, bienvenue.
Bonjour, merci.
D'où appelez-vous Anaïs ?
J'appelle de Trouville-sur-Mer.
Alors, vous êtes célibataire depuis deux mois ?
Oui, c'est ça. Je suis célibataire depuis deux mois. Et en fait, donc après 10 ans de relation, on a décidé de se séparer avec mon conjoint. Et c'est vrai que c'est aussi vertigineux que grisant. Mais je retrouve une certaine liberté aujourd'hui, et c'est très très agréable.
Qu'est-ce qui est agréable ? Qu'est-ce qui est grisant, Anaïs ?
Ce sentiment de retrouver cette solitude et s'autoriser plus de choses, en fait, que tout ne tourne pas autour du couple ou de cette relation, et que finalement ça tourne plus autour de moi, en fait. Et c'est quelque chose que j'avais peut-être laissé tomber et que je retrouve, et c'est vraiment ça qui est très agréable et jouissif.
Et vous appréhendez ou pas, parce que là c'est un sentiment un peu euphorique de liberté, d'une forme de félicité, de bliss, dit-on en anglais, c'est un mot très à la mode. Mais est-ce que vous appréhendez les mois qui vont arriver, ou alors vous vous dites non, je vais me reconstituer et on verra bien ce qui arrivera?
Mais justement, non, j'attends pas du tout parce que c'est comme une page blanche en fait qui s'ouvre à moi et donc il y a tout à refaire, tout à construire et c'est ça qui est grisant en fait.
Lorraine Bastide, vous buvez du petit lait ?
Un petit peu. En fait, là, c'est vrai que j'ai ma casquette de féministe qui frémit sur ma tête, parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont communes à tous les humains, quel que soit leur genre, mais c'est toujours intéressant d'apporter une lecture sociologique genrée aux choses. Et effectivement, le couple, la famille, dans un cadre hétérosexuel traditionnel, hein, et pas dans tous les couples, ça ne représente pas la même chose pour un homme et pour une femme. Et on sait que souvent, après une séparation, après un divorce, surtout dans des longues relations où il y a eu une cohabitation, les femmes ressentent un soulagement d'être libérées d'une certaine charge de care, d'une charge de soins des autres, une charge domestique qui va passer par le fait de toujours s'occuper des autres personnes de la maison. Et c'est vrai que quand on n'a plus cette charge-là, un espace se crée. Alors que peut-être que chez les hommes divorcés qui d'un seul coup se retrouvent privés d'une personne qui vient subvenir à leurs besoins alimentaires, santé, etc., émotionnels, ça peut peut-être causer un vide un peu différent, qui ressemble moins à une liberté qu'à un manque.
Anaïs, vous avez ressenti ce soulagement ?
Oui.
Et vous, Pierre ?
Non, pas tout à fait, parce que bon, je cuisine, enfin, je fais tout à la maison, quoi, donc il n'y avait pas ce déséquilibre. J'imagine que quelqu'un qui ne sait pas faire cuire un œuf va se retrouver complètement démuni, mais bon, moi je sais coudre, je sais faire tous les travaux de la maison, je sais cuisiner, donc j'ai pas de manque de ce côté-là. Mais par contre, effectivement, le manque affectif est énorme.
Oh, Pierre, l'homme idéal. N'hésitez pas à appeler Pierre. On va donner les contacts.
Il a l'air super.
Il a l'air très bien.
Oui, non,
très
mais
bien.
Alors là, il soulève quelque chose qui est très intéressant. Déjà, les femmes qui sont soulagées de ne plus être en couple, elles ont à peu près, en tous les cas, on est sur des femmes qui ont eu une famille, qui ont été en couple très très longtemps. Et la vraie question sur ce soulagement du célibat, moi je trouve que c'est qu'est-ce qui fait que les femmes s'oublient dans un couple ? Parce qu'on a toujours l'impression que le couple engendre forcément un oubli de soi. Et là, je voudrais dire que c'est pas le couple qui fait ça du tout, c'est l'individu. C'est qu'est-ce qui fait que pour plaire à l'autre, je vais faire des choses qui ne me satisfont pas. Elle est là, la vraie question. Le couple, en soi, n'est pas une contrainte. C'est nous qui mettons des contraintes. C'est nous qui n'exprimons pas ce qui nous va bien. J'entendais Anaïs dire « Enfin, je peux penser à moi. Enfin, du temps pour moi. » Et ça m'atterre, d'une certaine façon, que le couple soit, pour certaines personnes, aussi contraignant. Je pense qu'on peut être extrêmement individué, avec un centre de gravité interne, tout en étant en couple. Donc le problème n'est pas le couple, c'est comment est-ce que moi j'arrive à me poser et à vivre dans le couple sans être entièrement décentré ou tourné vers l'autre.
Lorraine Bastide.
Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Cécilia, et je crois que justement les femmes dans cette perspective-là ne sont pas aidées. Parce que en fait, dès l'adolescence, on va expliquer aux femmes de façon plus ou moins douce ou directe qu'il faut qu'elles soient des bonnes femmes, qu'elles deviennent des bonnes épouses, des bonnes mères, qu'elles se conforment à un certain nombre de critères, notamment physiques, de minceur, de jeunesse éternelle, de beauté pour être dans la séduction, pour plaire, pour être choisie par les autres. Dès l'adolescence, en fait, et ça, il y a une psychologue américaine que je cite abondamment dans mon livre qui s'appelle Carol Gilligan, qui l'a décrit, il y a une espèce de dissociation qui se produit vers 13-14 ans, au moment de la puberté chez les femmes, où la voix authentique, c'est-à-dire l'individu, au sens analytique du terme, se retrouve enfermée sous une voie sociale qui est la voie patriarcale, qui est la voie, en fait, de la femme qui va devoir plaire aux hommes et remplir tous ses rôles sociaux. Donc je pense que, en raison du sexisme ambiant, les femmes sont bien plus enclines à s'effacer au profit du couple et à complètement s'oublier pour être validées et pour plaire, ce qui est présenté en fait comme leur but, le but ultime de leur vie.
Merci beaucoup Pierre et Anaïs de nous avoir appelés. Dans quelques instants, des clés pour vivre au mieux son célibat. N'hésitez pas à témoigner pour évoquer cette vie solo heureuse. Et si vous ne parvenez pas à nager dans la félicité du célibat, appelez-nous également au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 ainsi que sur l'appli Radio France. On se retrouve juste après avoir écouté Julien Clerc, This Melody, une chanson de 1976 composée par Étienne Rodagil. 10h24 sur France Inter. This Melody. Melody for you.
ça, le vent d'ici fait voler tous nos oiseaux. Les champs d'ici font ce qu'ils peuvent pour les troupeaux.
Claire, interprétée This Melody, souvenir d'enfance, Lorraine Bastide.
Bah oui, j'ai grandi sous perfusion de Julien Clerc grâce à ma maman, que j'embrasse.
Vous écoutiez cette chanson quand vous aviez un an ?
Bah, quand j'étais toute petite, ouais. Cet album tournait beaucoup à la maison. Il y a des vidéos de moi où je suis en couche avec cet album en fond sonore, donc c'est vraiment, ça me berce.
Et c'est un total hasard.
Ali Rebéi.
Alors j'ai passé 6 mois l'année dernière à créer un algorithme qui scanne les applis de rencontre et charge les meilleurs profils dans un tableur Excel. Donc,
grand bien vous fasse,
je sais ce que je recherche.
Qu'est-ce que tu fais sur ces sites ? T'es une jolie fille ?
C'est pour ça que j'ai décidé d'augmenter mes chances en m'inscrivant sur 10 sites différents.
La classe, bravo.
Sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand Main vous fasse, peut-on être célibataire et heureux avec la complicité de Cerveau et Psycho, avec son rédacteur en chef Sébastien Boller que nous accueillons. Bonjour Sébastien Boller.
Oui, bonjour Ali.
Avec à la une du Cerveau et Psycho, célibataire et heureux. Avec nous également l'essayiste Lorraine Bastide et la psychanalyste et sexologue clinicienne Cécilia Comeau. Et on écoute une note vocale déposée par Flavie de Carcassonne.
Bonjour. Bien, je me rends compte depuis que je vis seule, depuis presque 4 ans, qu'en fait, je ne suis plus invitée chez les couples. Et mes amies féminines seules me disent la même chose. Parce que nous sommes un danger, nous pouvons potentiellement mettre en péril l'équilibre du couple. Et c'est vraiment regrettable, mais c'est une constatation que nous faisons tous.
Cécilia Comeau.
Oui, je pense que ça révèle les insécurités des couples qui sont en face. Surtout, ça raconte leur histoire, ça raconte leur peur, leur fragilité. Et voilà, c'est cette notion que n'importe quelle femme seule serait dangereuse, c'est quand même, ça interroge quand même le lien du couple.
Lorraine Bastide.
Oui, et puis ça s'inscrit aussi dans plusieurs siècles d'histoire. Les femmes seules ont été aussi construites historiquement, culturellement, comme des dangers pour la société. Voilà, par exemple, l'Inquisition qui chassait et persécutait et brûlait les sorcières, c'était une chasse aux femmes seules, aux électrons libres, aux femmes célibataires, aux veuves, à celles qui n'avaient pas besoin des hommes pour exister. Donc il y a vraiment eu une espèce de lavage de cerveau aussi dans la société au fil des siècles, qui a culminé au 19e siècle d'ailleurs avec Balzac et la fameuse vieille fille qui est un peu l'ancêtre de Bridget Jones, qui a vraiment construit culturellement cette idée que la femme seule représentait un danger. Donc je pense qu'effectivement ça raconte beaucoup l'histoire des couples qui ne l'invitent pas, mais ça raconte aussi je pense beaucoup des stéréotypes et des archétypes qui pèsent dans l'inconscient collectif de la société.
Frédéric de Colmar nous écrit: après un court mariage et un divorce, j'ai longtemps cherché à refaire ma vie. Quelle horrible expression. J'ai mis des années à comprendre que je continue ma vie et que j'étais la seule à la bâtir. 25 ans plus tard, je vis seule par choix, car j'aime être seule face à moi-même. J'apprécie de rencontrer mes amis, ma famille, quand j'en fais le choix. C'est une forme d'égoïsme, certes, mais qui fait suite à des années de compromis, de négociations et d'effacement de soi. Et c'est vrai, Lorraine Bastide, dans Enfin Seule, vous n'aimez pas, vous le dites, hein, vous n'aimez pas quand on dit à une célibataire « Ah, il faudrait quand même que tu refasses ta vie », comme si la vie de célibataire impliquait de vivre une vie, une existence incomplète. Et c'est ce que nous dit très bien Fabienne. Hein.
Bah, Oui, complètement.
Frédéric, pardon.
Frédéric, en fait, elle ressemble à beaucoup de femmes qui viennent me voir. J'ai fait beaucoup de signatures en France pour promouvoir mon livre. J'ai rencontré des centaines de lectrices en librairie. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que beaucoup de femmes, notamment des femmes de 60, 70, 80 ans, sont venues me voir en me disant merci de raconter ma vie. Ça fait 20 ans, 30 ans depuis un divorce, ou alors parce que j'ai toujours été célibataire, que je vis seule et que j'ai du mal à faire comprendre aux gens autour de moi que ma vie est pleine et que je me suffis à moi-même. Et on m'a toujours, que ce soit les enfants, les amis, les autres, voilà, enjoint à refaire ma vie alors que ma vie me suffisait à moi-même. Et elles ont été contentes de trouver les mots pour décrire cette réalité-là.
Cécilia Como.
Oui, parce que je pense qu'on regarde toujours les célibataires sur un prisme qui serait le choix subi. Or, par exemple, au cabinet, pour ne parler que de ceux que je vois, finalement, ça se dispatche quand même dans trois catégorie, si on veut catégoriser un peu, on a les célibataires pour qui j'appelle ça le choix plein. C'est des gens qui ont volontairement choisi d'être célibataires. Alors, ils ont un nom. Ils s'appellent les délibataires. Ils sont délibérément célibataires. C'est une francisation d'un mouvement féministe américain des années 2000, single by choice. Donc, ces gens-là, effectivement, refaire leur vie ou homme à pauvre, ça tombe complètement à côté. On a ceux pour qui ce que j'appelle un peu le choix par défaut, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi, mais en revanche, ils ont choisi d'assumer l'état de célibat. Et donc, ils en font quelque chose. Ils restent pas à se morfondre tout seuls chez eux. Et puis, il y a cette catégorie de gens pour qui c'est absolument pas un choix et qui le vivent de manière très subie. Et je pense que les réflexions qu'on adresse en bloc à tous les célibataires, surtout quand il s'agit de les plaindre, s'adressent surtout aux gens qui ne l'ont pas choisi. Donc, avant de dire à un célibataire homme à pauvre ou quand est-ce que tu vérifies d'abord si c'est un délibataire, quelqu'un qui est délibérément célibataire ou pas.
Et selon une enquête Ipsos menée en 2022 pour le site de rencontre Badou auprès de 1000 célibataires entre 18 et 45 ans, 67% des célibataires sondés affirmaient avoir subi une forme de pression à sortir du célibat avec des effets pervers. On finit par se dire que pour être heureux, il vaut peut-être mieux être en couple, et on se dit aussi que la construction d'une vie épanouie est incompatible avec le célibat. Lorraine Bastide.
C'est difficile d'entendre ça, parce qu'en fait, ce que j'explore aussi dans le livre, c'est ce qu'on peut arriver à toucher du doigt par la solitude, et le mot solitude en français, qui renvoie quand même toujours un peu à une forme de détresse, ne recouvre pas bien cette idée de solitude qui existe en anglais, qui est le lieu dans lequel justement on va créer, on va se connecter à quelque chose de plus grand, on va entrer dans une forme de créativité, de spiritualité. Je me suis rendu compte que dans l'histoire de la philosophie, le promeneur solitaire, Jean-Jacques Rousseau, ou Montaigne dans sa tour qui écrit ses pensées, c'est des choses qui sont plutôt valorisées, en fait. Donc je pense que si on sort aussi du prisme de la sexualité et de l'amour, et qu'on réfléchit à la solitude comme un espace possible au contraire de recherche, de créativité, de passion, ça peut devenir quelque chose d'extrêmement valorisé et même recherché. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qu'on peut rechercher aussi, et ça convoque La chambre à soi de Virginia Woolf, quand on est en couple, quand on est en famille. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes mariées qui ont été aussi inspirés par mon livre, à rechercher cette capacité à être seule, à avoir une solitude sereine, y compris dans une vie de famille et dans une vie de couple, ce qui peut être, à mon avis, d'ailleurs, une bonne solution pour un couple heureux et une famille épanouie.
Alors, toujours selon la même enquête de 2022 de l'Ipsos, 3 célibataires sur 5 déclaraient avoir ressenti de la tristesse et de la frustration au cours des 6 derniers mois du fait de leur célibat. 87% affirmaient avoir ressenti une émotion positive et 80% une émotion négative. Et parmi ces émotions négatives, on retrouve par ordre décroissant de la tristesse, de la frustration, de l'anxiété, de la déprime, de la jalousie, de la colère ou encore de la culpabilité. Ça vous inspire quoi, Cécilia Como?
Oui, ça c'est vrai que...
Et de la honte aussi.
Oui, parce que justement les gens se sentent stigmatisés et être célibataire, ils ont l'impression que ça renvoie à ne pas être choisi. C'est vrai que il y a une fréquence sur l'anxiété, l'inquiétude et la dépression qui est plus prégnante dans les études sur les célibataires que chez les gens qui vivent en couple. Mais je pense que ça dépend aussi de beaucoup de facteurs. Depuis combien de temps on est célibataire? Est-ce qu'on est très entouré pas entouré, c'est-à-dire est-ce qu'on est célibataire et seul ou est-ce qu'on est célibataire et relié aux autres, le contexte, comment on vit, est-ce qu'on a un toit sécure, est-ce qu'on a des revenus, parce que Virginia Woolf effectivement préconisait une chambre à soi, mais elle préconisait dans sa phrase une chambre à soi avec des revenus, revenus qu'elle chiffrait à 500 livres qui correspondent aujourd'hui à 3 900 € par mois. Donc vous imaginez.
Je sais pas si j'avais trouvé le même chiffre. J'avais trouvé aussi une traduction. Ça me paraissait que c'était moins. Bon, ah, effectivement,
l'argent. En 1929, 500 livres. Ouais, ouais. Et en fait, elle avait cet argent par un héritage, donc elle touchait. Il se trouve que le revenu des femmes aujourd'hui actives, il est de 1 920 € à peu près en moyenne par mois. Donc on est effectivement très loin des 3 900 euros pour être bien. Donc je pense qu'il y a beaucoup de critères qui font qu'à un moment donné, les gens sont anxieux.
Et nous accueillons Théa. Bonjour Théa.
Bonjour.
Vous êtes célibataire depuis quelques mois. Vous avez bientôt 30 ans, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Comment vivez-vous ce célibat, Théa?
Eh bien justement, moi j'ai vécu une période de vrai soulagement, comme vous l'évoquiez au début de l'émission. Au moment de la rupture, malgré la tristesse qui est quand même là, hein, il faut le dire. Mais j'ai aussi conscience que le fait de vivre un célibat sereinement vient du fait qu'on a aussi des ressources matérielles et financières qui le permettent. Et je pense beaucoup, j'ai vu beaucoup autour de moi des personnes se retrouver vraiment dans la panade financière au moment d'une situation, parce qu'elles ne pouvaient plus payer un loyer dans une grande ville ou parce que les dépenses de la vie courante étaient devenues complexes. Ou je ne parle même pas du fait de partir en vacances, par exemple. Tout ça, ce sont des frais qui sont quasiment divisés par deux quand on est en couple, et au moment d'une rupture, on se retrouve en fait avec des charges qui sont beaucoup, beaucoup plus importantes. Et je pense aussi, je ne sais pas si vous connaissez la théorie des pots de yaourt pour les femmes qui ont vécu en couple pendant très longtemps.
Expliquez-nous.
Oui, en fait, c'est souvent ce qu'on observe dans les ménages. En fait, les hommes s'occupent, dans les couples hétéros en tout cas, les hommes s'occupent des dépenses qui permettent de constituer du patrimoine, c'est-à-dire de payer un crédit notamment, et les femmes s'occupent des dépenses de la vie courante, donc les courses, les charges, et notamment les pots de yaourt. Et donc au moment de la séparation, les hommes se retrouvent avec un patrimoine qui est constitué, et les femmes non, quasiment rien en fait, parce qu'elles n'ont pas participé à la constitution du patrimoine. Voilà, donc je souhaitais souligner cette inégalité financière. C'est super de profiter de son célibat, mais il faut aussi, surtout dans les grandes villes, avoir les moyens de le faire.
Et Théa, ce poids financier pèse sur vos épaules et sur votre bonheur, entre guillemets, sur votre bien-être?
Moi, j'ai la chance de gagner suffisamment ma vie pour que ce ne soit pas le cas. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde autour de moi. Alors, c'est vrai que j'aurais un train de vie encore plus confortable si je vivais en couple. Moi, j'ai la chance de ne pas être dans une situation difficile, mais bon, j'en ai conscience quand même.
Lorraine Bastide.
Merci Théa pour cette vulgarisation magnifique de cette théorie féministe hyper importante du pot de yaourt. Et puis aussi, c'est important de rappeler qu'il y a des milliers de femmes aujourd'hui qui vivent sous le toit d'un conjoint violent et qui ne peuvent pas quitter ce toit faute d'indépendance économique, financière. Donc évidemment, c'est tout à fait... en fait, c'est en ça que c'est une question féministe, c'est-à-dire les femmes ne peuvent pas être bien seules si elles n'ont pas accès aussi à une autonomie professionnelle, financière, une capacité à gagner le même salaire que les hommes, et on en est encore extrêmement loin aujourd'hui.
Est-ce que votre célibat vous rend heureuse, Théa?
Là, c'est encore frais, donc pour l'instant, je suis surtout dans une phase de respiration. Mais comme vos intervenants l'évoquaient tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit toutes les possibilités qui s'ouvrent, et je ne parle pas uniquement de vivre sa vie amoureuse de manière... dilettante, mais juste de voir plus de gens, de se dire que on va tenter de nouvelles activités, qu'on va se créer une nouvelle vie, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est assez agréable aussi.
Et merci beaucoup, Théa, pour cette théorie du pot de yaourt que vous avez partagée avec nos auditrices et auditeurs. Et nous accueillons Sabine. Bonjour, Sabine.
Bonjour, Ali.
Bonjour, vous appelez d'Avignon.
Oui, c'est ça, autour d'Avignon, oui. Oui.
Alors vous, comment vivez-vous votre célibat?
Alors, moi, je le vis de façon subie, en fait. J'ai vécu, en fait, toutes les cases des formulaires d'état civil. J'ai été célibataire, puis mariée, puis divorcée, puis remariée, et veuve. Et donc, je suis veuve depuis quelques années. Et voilà. Au début, c'était vraiment quelque chose de très, très difficile et très compliqué. On se sent vraiment tout seul.
Qu'est-ce qui était compliqué, Sabine?
Eh bien, les relations sociales, en effet. Alors, au-delà de la douleur du deuil, les relations sociales, et j'ai retrouvé des choses dans les bouquins de Mona Chollet, notamment dans Sorcière, où je me suis dit, ok, je suis devenue une sorcière pour les autres, c'est un peu étrange, mais voilà.
Et puis finalement, petit à petit, aussi à force de lire des œuvres féministes, on devient de plus en plus exigeante. Enfin, je suis devenue de plus en plus exigeante quant à mes relations avec les hommes. Mmh. Et au fur et à mesure, quand même, de mon évolution, parce que ça fait quelques années, je me suis rendu compte aussi que les relations amicales avec les filles et les copines ne me suffisaient plus, mmh. et j'avais besoin de retrouver du lien amical mmh. avec des hommes. Mmh. Voilà. Donc c'est ça aussi qui est important. Après, le célibat, c'est au quotidien, je trouve ça finalement très agréable d'être seule, de disposer de mon temps, de mon emploi du temps, mmh. De décider si je fais une activité à 10 heures du soir ou si je vais me coucher à 7 heures du soir, c'est n'importe quoi. Voilà, je suis à mon propre rythme. Je ne suis pas obligée de me caler sur le rythme de quelqu'un d'autre. Ça, c'est
Sabine.
C'est vraiment. Oui.
Vous l'avez entendu, cette phrase, tu devrais te recaser, mais pourquoi tu ne te recasses pas? Et comment vous vivez ce genre de pression de l'entourage, parfois, qui cherche à vous caser absolument?
Alors, ce n'était pas exactement le terme recaser, mais tu vas pouvoir reconstruire ta vie, et tu vas pouvoir refaire ta vie. Et à ça, j'ai toujours répondu, mais ma vie, elle est en cours. Je n'ai pas à la refaire, elle existe, elle est ce qu'elle est. Et je vais continuer à la construire, à la mener. On ne m'a pas poussé à rencontrer quelqu'un parce que je pense qu'il y a cette espèce de respect du deuil. Moi, j'en ressens le besoin, par contre, maintenant, de retrouver un lien amoureux. Voilà.
Après vous être reconstitué, vos forces, Cécilia, comment ?
Oui, moi ce que j'entends beaucoup chez les célibataires, quand je leur demande en fait qu'est-ce qui vous manque, il y a deux choses, trois peut-être, qui reviennent régulièrement, c'est partager, c'est avoir quelqu'un avec qui partager régulièrement. On m'a même dit rentrer le soir et pouvoir raconter en fait ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. On me parle beaucoup de tendresse. Hier, j'avais une célibataire très heureuse d'être célibataire, mais qui me disait, en fait, ce qui me manque, c'est vraiment cette notion de tendresse et d'affection, de rapport à l'autre qui soit plus affectif que ce qu'on a avec des amis. Et je me suis même demandé s'il n'y avait pas aussi parfois le manque du toucher. Je pensais aussi aux personnes âgées qui souffraient du manque de toucher et dont qu'on minore beaucoup trop. Et voilà, je me disais, j'entends le partage, la tendresse et je pense le toucher sont trois choses qui à un moment donné peut-être, en tous les cas chez les célibataires, que j'entends, vient à manquer.
Merci beaucoup Sabine de nous avoir appelé. Alors Sébastien Boller, j'aimerais qu'on s'arrête sur une étude de la chercheuse en psychologie Lisa Walsh, chercheuse à l'université de Californie à Los Angeles. Lisa Walsh qui s'est intéressée aux facteurs qui président au bonheur des célibataires. Elle en a interrogé 4835 tous américains. Les résultats montrent que les célibataires les plus satisfaits de leurs relations amicales et familiales sont dotés d'une haute estime de soi et ce sont ceux qui se déclarent le plus heureux. C'est bien ça, Sébastien Boller ?
Oui, alors dans cette étude, elle a effectivement identifié l'estime de soi comme étant quelque chose de très déterminant. Mais il y a cinq variables qui sont émergées. Alors l'estime de soi, on comprend pourquoi, puisqu'effectivement, c'est ce qui va permettre, comme le disait notre auditrice, de faire reposer sa vie, non pas forcément sur une autre personne, mais sur le plaisir d'être qui on est, la façon qu'on a de s'assumer, d'avoir des projets, de se présenter aux autres de façon positive. Et c'est pas pour rien que l'estime de soi, aujourd'hui, est un indicateur clé, en fait, du bien-être des individus. C'est quelque chose qui a émergé d'une société, justement, où l'individu, et notamment les femmes, se sont de plus en plus émancipées de certains liens, parfois très contraignants. Donc, l'estime de soi, c'est ce qui permet de se construire avec ses propres choix. Ce qui est parfois difficile aussi à acquérir, ce qui fait un petit peu le caractère ambigu de cette thématique, d'être célibataire et heureux aujourd'hui, c'est que oui, on peut, mais ça, c'est pas toujours facile. Il faut passer par tout un parcours. Donc, l'estime de soi, effectivement, était un facteur très important de cette étude. Mais il y a aussi quelque chose qui rejoint ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire la satisfaction en amitié. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti très fort de cette étude-là. La capacité à être, non pas en couple, mais malgré tout relié. L'être humain a besoin de liens. On a parlé du toucher tout à l'heure, c'est aussi quelque chose hein, qui ressort de ces études. Le besoin du toucher, c'est un besoin qui est ancestral, qui nous vient de centaines de milliers d'années d'évolution. Les humains ont toujours vécu en groupe et une façon de faire régresser l'anxiété, la peur de mille dangers, hein, ça pouvait être les prédateurs, l'obscurité, la mort, tout ce que c'était toujours la proximité et le toucher qui fait libérer de l'ocytocine, des endorphines, des molécules qui calment le stress. On est constitué neuronalement pour ça. Voilà. Alors que ce soit par le couple ou autre chose, c'est toute la question, mais en tout cas, c'est très important. Et aujourd'hui, quand on parle des ravages de la solitude au sens de l'isolement, hein, pas de la solitude dont on parlait tout à l'heure, mais plutôt de la loneliness, le fait de se sentir isolé, c'est en grande partie un manque de liens et de contacts. Donc la satisfaction en amitié, ça c'était quelque chose de très fort dans l'étude de Lisa Walsh. Alors on parle aussi de satisfaction familiale, ça peut paraître un peu paradoxal dans le cadre du célibat, mais pas du tout. On a beaucoup de célibataires qui vivent non pas en couple, mais par exemple avec soit avec la maman, le papa, soit avec les enfants, dans les familles recomposées ou les familles monoparentales. Et donc ça c'est important aussi dans l'étude de Lisa Walsh. Et puis l'extraversion qui est une dimension fondamentale de la personnalité, hein, qui est très stable au cours de la vie. Mm-hmm. Il y en a 5 grandes dimensions de la personnalité hein, en psychologie scientifique. Et l'extraversion en fait partie. L'extraversion, ben, c'est tout simplement un facilitateur de contact, de lien à autrui, le fait d'aller vers les autres en soirée, et ça vient compenser le risque lié parfois au célibat, qui est celui de se replier sur soi. Donc voilà, c'est tout ça qui ressortait de l'étude de Lisa Walsh, et ça rejoint en fait les besoins humains, et ça pose la question d'une société qui est en évolution, où on voit bien que les normes du couple sont plus aussi écrasantes qu'avant. Maintenant, il y a quand même plus de 40% des jeunes qui sont célibataires parce qu'ils sont en couple plus tard aussi, et que donc il faut trouver son équilibre là-dedans. Et ça se travaille aussi. Hein. Il y a quelques grands conseils qu'on peut donner pour, entre guillemets, bien vivre dans sa situation de célibataire. On pourra peut-être y revenir.
Des conseils dans quelques instants, Sébastien Boller. On se retrouve dans un instant. N'hésitez pas à nous raconter quel célibataire heureux êtes-vous, ou si au contraire la pression qui pèse sur vous est assez insupportable. On se retrouve juste après avoir écouté Nusantara Beat qui interprète Tamat, 10h47 sur Inter. Nusantara Beat interprété Tamat.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand Ma Bouffasse, peut-on être célibataire et heureux avec la complicité de Cerveau et Psycho, avec son rédacteur en chef Sébastien Boller, avec l'essayiste Lorraine Bastide, qui publie Enfin Seule, et avec la sexologue clinicienne Cécilia Como. Lorraine Bastide, vous rappelez dans votre livre que on peut être, parce que votre livre s'adresse surtout aux femmes, une femme seule, une femme célibataire, et qu'on peut faire tout un tas de choses épanouissantes sans forcément être en couple.
Oui, parce qu'en fait, mon livre, c'est pas tout à fait un livre sur le célibat, c'est sur la possibilité de conquérir une solitude sereine, une solitude heureuse en tant que femme, et sur les obstacles qu'on peut rencontrer en tant que femme vers cette solitude sereine. Et pour moi, être bien avec soi-même, avoir envie de rester seule, par exemple de vivre seule chez soi, c'est pas du tout incompatible avec une vie amoureuse, une vie sexuelle épanouissante, sympa, drôle. Et je crois même que pour, en fait, ça boucle aussi avec ce que disait Cécilia au début de l'émission, c'est qu'une fois qu'on a aussi réussi à bien s'entendre avec soi, à rentrer dans un dialogue apaisé avec soi-même, à se connaître, à développer ses activités créatives, amicales, etc., on devient une meilleure amoureuse, une meilleure amante. On s'ouvre la possibilité d'avoir des relations romantiques beaucoup plus apaisées, qui ne dépendent pas de l'autre. Enfin, voilà, on s'évite des relations toxiques, on ne cherche plus la validation de son être dans le regard de l'autre, on se suffit à soi-même. Et à partir de là, bah, les relations deviennent presque que joyeuses, je dirais.
Et nous accueillons Julie. Bienvenue, Julie.
Bonjour.
Bonjour, d'où appelez-vous ?
De Pau.
De Pau. Alors, quel est votre témoignage ? Il semble que vous soyez une célibataire heureuse.
oui, bah alors moi, j'ai été longtemps en couple, mais je constate que j'ai été mieux dans ma vie, enfin en tout cas plus épanouie dans le célibat. Mm-hmm. Et je me demandais, en fait, en ce moment, j'ai rencontré un homme et l'état amoureux me bouleverse et déstabilise la vie que j'avais construite. Et du coup, en fait, je me pose beaucoup la question de comment s'aimer sans perdre ce que le célibat nous procure, en fait.
Alors, il y a Emmanuel qui peut proposer une solution, qui nous a écrit « Le couple à distance, 3h15 de route, on cumule le bienfait de la solitude et la joie de se retrouver pour passer des bons moments. » Voilà, une solution peut-être. Qu'est-ce que vous a apporté ce célibat que vous avez envie de conserver dans ce couple naissant, Julie ?
En fait, c'est difficile à exprimer. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent à l'intérieur, le fait d'être seul avec soi, justement. Et quand une autre personne rentre dans notre vie, en tout cas pour moi, j'ai du mal à savoir comment trouver l'équilibre entre la relation et le fait d'être seul, quoi. Enfin, en fait, je me sens pas seule quand je suis seule chez moi. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Lorraine Bastide.
Bah c'est toute la question, en fait, et je pense que c'est vraiment très important, et je crois qu'en formulant cette question, on touche déjà du doigt la nécessité, en fait, de poser certaines limites, et ça, c'est un peu, encore une fois, ça revient à ce qu'on dit au début de l'émission, dans un couple, il faut savoir ce qui est important pour nous, il faut savoir mettre, voilà, les limites, exprimer son individualité, son besoin, et je pense que ça, très matériellement, ça peut effectivement se jouer sur le temps qu'on passe ensemble, éviter de fusionner, éviter de tout se coller, de vouloir tout faire ensemble. Je pense que voilà, le couple à mi-temps ou le couple à distance ou ce genre de propositions qui viennent aussi des auditeurs et auditrices, ça, on touche du doigt quelque chose. Faut qu'elle arrive à préserver cet espace qu'elle a réussi à conquérir pour elle-même, même si elle est amoureuse, parce que c'est chouette d'être amoureuse.
Il y a également Henri de Bordeaux qui propose le célibat temps partiel, chacun chez soi, et on garde les beaux moments ensemble.
Oui, Cécilia, ça s'appelle le célicouple.
Le célicouple.
Vous avez tellement de néologismes, je suis fan.
Alors on a entendu le délibérément célibat.
Oui. Bon. Là, ce que nous racontait l'auditrice, bon, l'état amoureux, l'état naissant amoureux est renversant. Donc là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire.
Et heureusement, c'est pourquoi vous dites malheureusement ?
Non, mais par rapport à son objectif, elle ne veut pas penser non-stop, si j'ai bien compris, à l'autre, et en fait se sentir envahie mentalement par l'autre. Bon, c'est le principe même de tomber amoureux, c'est que on devient obsessionnel. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça dure pas non plus heureusement 107 ans. Ensuite, effectivement, alors c'est très intéressant ce qu'elle décrit, et c'est là où je pense qu'il faut pas rater le coche, c'est que quand on est amoureux, il est chimiquement normal d'être complètement de faire un nous, une espèce de bloc avec aucune différenciation individuelle. Et Et puis ensuite arrive cette phase de différenciation. Et c'est là, en fait, je pense, où il ne faut pas se rater.
C'est là que ça se joue.
Voilà, et pas se diluer. Et c'est là où il faut imaginer le couple comme un lieu ouvert et pas un lieu fermé. C'est de pouvoir poser dès le départ ce qui nous va bien et ce qui nous va pas. Et d'expérience, je l'entends souvent, quand c'est pas posé au début, c'est très compliqué de le poser ensuite.
Merci beaucoup Julie de nous avoir appelé. Alors Sébastien Boller, quels sont vos conseils puisés dans la recherche scientifique pour être une célibataire heureux, heureuse? Quelques pistes?
Oui, alors il y a quelques points de bon sens qui se dégagent effectivement de la littérature scientifique. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, à essayer de veiller à toujours satisfaire les besoins fondamentaux, hein, qui peuvent varier selon les individus, mais qu'on retrouve quand même chez la plupart des personnes, c'est qu'on a à un moment donné toujours besoin dans sa vie de soutien. C'est-à-dire que se sentir livré à soi-même en toutes circonstances, en général, c'est pas possible. Donc, dans sa vie, savoir qu'on a le soutien de quelqu'un, c'est important. C'est sans doute pour ça aussi que le couple a rencontré quand même une recette qui a rencontré du succès au cours de l'histoire. C'est que quand ça se passe bien, il y a quelqu'un qui est à côté. Et quand on opte pour le célibat, la clé, c'est de se dire que où on va trouver le soutien. Et là, il y a quand même beaucoup d'indices qui montrent que les personnes qui arrivent à penser et à entretenir des relations de confiance profonde et stable avec quelques amitiés fortes, là, peuvent se reposer sur quelque chose d'important. Donc l'amitié, c'est quelque chose qui n'implique pas une quelconque soumission, une suggestion de l'un à l'autre, pas du tout. Au contraire, c'est ça qui est fantastique. C'est l'indépendance, c'est la liberté, c'est le respect de la parole de l'autre, c'est l'écoute. Et donc, les personnes qui arrivent à toujours comme ça maintenir de façon continue ou en pointillé, hein, selon les existences, des amitiés fortes, de quelques personnes qui comptent et vers qui on peut se tourner, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais si je suis pas bien? C'est ça fondamentalement le besoin primaire de l'homme, c'est de se dire en cas de détresse, est-ce que il y a quelqu'un qui va pouvoir m'aider, qui va être là pour moi. Donc ça, c'est le premier point. Ça revient sans arrêt.
Ah, il nous reste plus beaucoup de temps. Et là, Sébastien Boller.
Bon, sinon, il y a l'estime de soi et surtout éviter de vivre dans l'attente d'un partenaire. Ouais. Parce que si on se dit, mon célibat, c'est un moment, c'est un purgatoire, faut que j'attende un peu, ça va revenir. Là, on n'arrive pas à jouir des petits moments qui sont très précieux et qu'on peut profiter beaucoup mieux quand on est seul, bien souvent.
Un mot de conclusion, Cécile Accomo, Lorraine Bastide.
Je vais rebondir. Les besoins fondamentaux qu'on a, moi, je pense qu'ils ne peuvent absolument pas dépendre d'une seule personne et en l'occurrence de l'autre. Et c'est peut-être ça le leurre du couple. C'est de penser qu'à partir du moment où on est en couple, on a quelqu'un qui va prendre en charge ça. C'est, à mon sens, si ça existe, ce n'est pas du tout une bonne idée.
Lorraine Bastide.
L'amitié, oui. Vive l'amitié. C'est pas pour rien que le féminisme a autant mis en avant ces dernières années l'amitié et la sororité comme des clés pour juste aller mieux.
Et vous invitez les femmes à construire leur cabane. Il existait la chambre à soi de Virginia Woolf. Maintenant, il y aura la cabane de Lorraine Bastide.
Exactement. Annie.
Merci beaucoup, Cécile Accomo, psychanalyste et sexologue clinicienne. Merci, Lorraine Bastide. Enfin, seul, c'est chez Alary Édition. Merci, Sébastien Boller. Le numéro de Cerveau et Psycho, célibataire et heureux, disponible en kiosque. Vous pouvez podcaster et partager tous les épisodes de Grand Bien Vous Fasse et retrouver les extraits vidéo de l'émission sur les réseaux sociaux d'Inter et sur mon compte Instagram, ali.rebi. Demain, journée spéciale consacrée aux écrans. Pourquoi est-on addict aux écrans? Tous vos témoignages et vos questions au 01 45 24 7000 demain dès 10h.